Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravie d'être là ce soir pour vous parler d'appel d'urgence. Donc c'est pas un sujet extrêmement joyeux, mais j'espère pouvoir vous montrer à quel point la linguistique peut être utile pour analyser ce type de données. Je vais vous montrer des données en anglais et aussi en français. Ceci dit, je ne vais pas vous faire écouter des extraits audio pour des raisons de confidentialité et de sécurité des données, puisque c'est des données très sensibles, c'est des données de santé. Donc ça sera uniquement des extraits de transcription. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, c'est des transcriptions, on va dire, de type analyse conversationnelle très très light, donc avec quelques symboles qui permettent de représenter la façon dont on dit les choses et le moment, le timing où les choses sont dites. Si vous en avez jamais vu, c'est pas très important. Il y a juste quelques symboles que je pointerai au fur et à mesure. Mais voilà, ça sera juste des extraits écrits que de temps en temps je lirai à haute voix avec juste ma voix. Mais voilà. Donc ça ne va pas être un accès direct aux données, malheureusement. Voilà. Alors pour cette présentation sur les difficultés linguistiques et les stratégies interactionnelles dans les appels téléphoniques d'urgence. Voici les points que je vais aborder. D'abord, je vais vous donner un petit peu de contexte sur les appels d'urgence médicale en général, donc à la fois en France et aussi en Australie. Et ensuite, les trois fenêtres d'entrée que je vous propose pour analyser la langue et l'interaction dans les appels d'urgence. C'est d'abord un point de vue centré sur le lexique et la terminologie. Et là, je vais uniquement vous montrer des données en français. Donc, la question centrale, c'est en fait qu'est-ce qui pose problème dans les mots mêmes qu'on choisit dans les appels, les mots choisis par les appelants et puis les mots choisis par les intervenants, les régulateurs du SAMU, par exemple. La deuxième fenêtre dans ces données, ça va être un point de vue plus structurel, grammatical. Et donc là, ça va être la question générale, ça va être à quel point les structures grammaticales peuvent avoir une influence sur ce qui se joue dans l'interaction et donc la prise en charge médicale des personnes. Et pour ça, je vais vous montrer des données à la fois en anglais et en français. En anglais, je vais vous montrer le moment dans l'appel où les personnes décrivent leur situation ou expriment leur demande ou leurs besoins. Et la question que je vais poser, c'est est-ce que le temps et l'aspect du verbe qu'on choisit peut avoir une influence sur ce qui se passe ensuite dans ce qu'on dit ? Et pour le français, ce que je vais vous montrer, c'est quand on essaie de faire agir l'appelant à distance, puisque c'est un des enjeux des appels d'urgence, c'est pas seulement recueillir des informations, mais c'est aussi donner des instructions de type rassembler les ordonnances, ouvrir la porte, ou parfois faire des gestes de premier secours. Donc quand on veut faire agir à distance, juste au téléphone, l'appelant, est-ce qu'il y a des structures grammaticales qui permettent de faire agir la personne plus ou moins rapidement ou pas ? Et enfin, la troisième porte d'entrée dans ces données, ça va être quelque chose de plus général sur ce qu'on peut appeler le cadre ou les projets interactionnels dans les appels d'urgence. Et là, pareil, je vais vous montrer des données en anglais et en français. En anglais, je vais parler de ce qu'on peut appeler une préemption, et plus particulièrement quand les appelants donnent une information trop tôt dans l'appel, enfin en tout cas trop tôt du point de vue du régulateur, avant qu'on lui demande. Donc comment cette information donnée trop tôt selon le point de vue de l'institution, comment cette information est gérée et en fonction de comment elle est gérée, quelles conséquences ça peut avoir par la suite. Et pour le français, je vais parler des reformulations et ça je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, mais donc, quand vous appelez le SAMU en France, vous avez a priori avoir au moins deux interlocuteurs. D'abord vous parlez à un assistant de régulation médicale qui fait un premier filtre et ensuite votre appel peut être transmis à un médecin régulateur. Et donc là, ce que je vais regarder, c'est quand le médecin régulateur reprend le téléphone et fait un espèce de résumé à l'appelant des informations qu'on lui a données. Et donc, qu'est-ce qui est proposé à l'appelant comme résumé de sa propre situation et comment l'appelant réagit. Donc voilà le programme de ce soir. Avant ça, donc, un peu de contexte sur les appels d'urgence médicale. Et pour ça, je vous montre des titres de journaux, deux en anglais et deux en français, sur des cas qui ont fait des gros titres, parce que ce sont quatre cas dramatiques où un appel d'urgence a une issue fatale pour le patient ou la patiente. Il y en a peut-être que vous connaissez déjà, notamment celui en haut à gauche à Strasbourg a des répercussions encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur les SAMU. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point les appels d'urgence médicale c'est des interactions où l'enjeu est extrêmement fort. C'est au-delà même de l'interaction, parfois une vie qui est en jeu. Et donc du coup, tout ce qui se joue au niveau du langage et de l'interaction, ça peut potentiellement impacter les patients. Donc si la moindre tension ou conflit dégénère, tout simplement si on raccroche trop tôt, voilà le risque qu'il peut y avoir dans chaque appel. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'interlocuteur du SAMU, le régulateur, n'a aucune vision de ce qui se passe réellement sur place. Donc les seules sources d'information, c'est ce que l'appelant dit ou ne dit pas. Donc voilà, donc des interactions où l'enjeu est vraiment très très fort. Et il y a aussi des contraintes institutionnelles, qui sont aussi très fortes. Et pour ça, je vais vous montrer des citations qui sont extraites d'un article de presse. Donc c'est une enquête approfondie qui a été faite dans le SAMU d'Amiens. Et donc c'est des citations de personnes interviewées. Il y a à la fois des assistants de régulation médicale, donc les ARM ou ARM, et des médecins régulateurs qui témoignent sur qu'est-ce que c'est leur métier et quelles sont leurs contraintes à eux. Donc par exemple, vous avez cette ARM qui, sous pseudonyme, explique que... C'est une des grandes difficultés de leur métier, c'est qu'ils reçoivent des centaines d'appels par jour et que parmi ces centaines d'appels par jour, il y a des situations plus ou moins graves et que donc les situations les plus dramatiques, elles sont au milieu de tout un tas d'appels qui, eux, parfois ne relèvent pas vraiment de l'urgence. Et c'est extrêmement difficile, cognitivement, de rester alerte pour chaque appel et de se dire que peut-être celui-là, ça peut être une urgence vitale. Cette citation d'un ARM qui est aussi superviseur d'autres ARM qui dit sous pseudonyme que y a aussi tout un travail d'expérience qui se joue, mais par exemple une des grandes difficultés c'est faire la différence entre la façon dont les gens s'expriment et la réalité de la chose, et notamment c'est pas forcément évident de faire la part des choses entre l'urgence exprimée et l'urgence réelle, surtout quand il y a des émotions très fortes qui sont exprimées. Donc voilà, il explique que c'est pas parce que quelqu'un crie ou est extrêmement angoissé que c'est très grave, et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un est très calme que c'est pas une urgence vitale. Donc c'est difficile de dissocier les deux. Et vous avez cette médecin régulatrice, que aussi formatrice, qui explique aussi qu'il y a des contraintes très matérielles, en fait. Il y a un nombre limité d'ambulances disponibles, il y a un nombre limité d'équipes médicales disponibles à un moment T0, et donc du coup, la question, c'est pas seulement pour chaque appel donner les secours, le niveau le plus haut de secours, c'est aussi comparer les appels entre eux qui arrivent en même temps et répartir au mieux en priorisant les cas avec les informations qu'on a à ce moment-là. Et enfin, dernière citation d'un médecin régulateur qui parle de la contrainte de temps. Hein, c'est des appels relativement courts finalement, ça veut dire... que les ARM et les médecins régulateurs doivent se faire une idée relativement précise de la situation en très peu de temps et sur la base de peu d'informations. Et en plus, c'est des informations qui peuvent être influencées par la personne qui leur transmet l'appel. Donc par exemple, au moment où l'ARM transmet l'information au médecin, il y a déjà un deuxième interlocuteur, donc ça veut dire qu'il y a déjà le filtre d'une personne et de sa subjectivité qui a plus retenu certaines informations par rapport à d'autres. Et parfois, je vais aussi vous l'expliquer, l'appel vient des sapeurs-pompiers, donc il peut y avoir aussi un autre interlocuteur qui a transmis l'appel au SAMU. Donc voilà, c'est vraiment difficile d'un point de vue institutionnel de gérer des centaines d'appels par jour, des milliers d'appels par jour en fonction de la taille du SAMU, de savoir lesquels sont les plus importants juste sur la base de ce que les appelants disent, et avec un nombre de ressources limité. Donc voilà. Ensuite, je vais juste vous montrer quelques citations de grands travaux qui ont été faits sur les appels d'urgence pour avoir un regard plus académique et recherche sur les appels d'urgence, puisqu'il y a quand même de plus en plus de recherches qui ont été faites dessus. Par exemple, le premier, c'est une chercheuse canadienne qui a bien expliqué dans cet article à quel point c'est vraiment dans les appels d'urgence toute une construction de qui a quel rôle. Et que ce n'est pas forcément évident pour l'appelant de savoir quel est le rôle qu'il doit prendre dans cet appel et qu'est-ce qu'on attend de lui. Les appelants peuvent imaginer qu'ils doivent se comporter comme ci ou comme ça, et ce n'est pas forcément le rôle que les régulateurs aimeraient que les appelants prennent. Donc il y a parfois des conflits ou des asymétries dans la vision des choses que les différents participants peuvent avoir. Rollet, qui a fait sa thèse sur les appels d'urgence de SAMU, a expliqué aussi dans cet article que la notion même d'urgence, c'est quelque chose qui émerge au fur et à mesure de l'interaction. C'est pas... certes, il y a un vrai patient, il y a une vraie réalité qui se déroule en même temps que l'appel, mais c'est aussi construire ensemble, en interaction, négocier la compréhension à deux de ce qui se passe. Dans cette citation suivante, ce que j'ai surligné en bleu, c'est aussi l'idée que la parole de Laplan, elle va être ensuite mise dans des catégories qui sont propres à l'institution, donc par exemple le SAMU, et ce n'est pas forcément les mêmes catégories avec lesquelles Laplan, le membre ordinaire de la société, fonctionne, et ce n'est pas non plus évident pour les interlocuteurs du SAMU de gérer ces catégories qui sont parfois difficilement compatibles avec une situation unique. Et enfin, cet article, j'ai mis aussi un extrait, parce que c'est un des premiers articles qui a été fait. C'est vraiment les pionniers aux États-Unis qui ont travaillé sur les appels d'urgence. Donc, c'est sur des données 911, c'est surtout les appels police, mais les centres 911, en fait, ils peuvent d'abord récupérer les appels pour ambulance, pompiers et police, et ensuite redispatcher à des centres locaux. Et donc, c'est ces deux chercheurs qui ont expliqué à quel point l'interaction appel d'urgence, elle est beaucoup plus compacte et spécialisée qu'une conversation téléphonique ordinaire. Elle a vraiment une forme une trajectoire très particulière. Donc il y a des choses qu'on peut trouver dans les conversations téléphoniques de tous les jours qui n'apparaissent pas dans les appels d'urgence, qui sont vraiment resserrés. Voilà. Donc ça, c'était le contexte général. Et maintenant, il faut que je vous explique un petit peu comment le SAMU fonctionne de l'intérieur, parce que c'est important de savoir ça pour comprendre ce que les armes ou les médecins régulateurs font dans leurs questions, dans leurs instructions, etc. Donc, ce que je vous dis là, c'est valable au jour d'aujourd'hui et sur les données que j'ai, mais je vous ai mis une petite astérix parce qu'en fait, il y a un changement qui est en cours de route. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est valide pour l'instant, mais en fait, c'est déjà en train de changer. Parce que les SAMU en France sont en train de mettre en place à des timings un peu différents en fonction des régions, le SAS, le service d'accès aux soins, et donc ça va changer un petit peu la chaîne d'interlocuteurs. En gros, il va y avoir un interlocuteur en plus. Mais donc voilà, pour l'instant, et en tout cas pour les données que je vais vous montrer, si vous êtes la personne qui a besoin de contacter les services d'urgence, vous pouvez choisir de composer le 15, donc le SAMU. Dans ce cas-là, votre premier interlocuteur, c'est donc un assistant de régulation médicale, ARM, qui va faire un premier filtre, donc qui va par exemple vous demander l'adresse, le nom du patient si c'est pas pour si vous appelez pour quelqu'un d'autre, l'âge, le numéro de téléphone pour pouvoir rappeler si ça coupe par exemple, et qui va essayer de faire une première catégorisation de quel est le motif d'appel. Est-ce que c'est pour une chute? Est-ce que c'est pour a priori quelque chose qui ressemble à un AVC? Est-ce que c'est un enfant qui fait un malaise? Voilà, donc essayer d'avoir une première catégorisation et déjà essayer de se rendre compte, de prioriser, de se rendre compte à quel point c'est une urgence ou pas. L'assistant de régulation médicale peut déjà envoyer un premier niveau de secours. Et dans ce cas-là, la première chose qu'on peut envoyer, c'est en fait un véhicule des pompiers, un VSAV, puisque les pompiers et le SAMU travaillent en fait ensemble. Les citoyens ne se rendent pas forcément compte, mais en fait, ils sont vraiment interconnectés, ils travaillent ensemble. Donc le premier élément que l'ARM peut faire, c'est dès qu'il y a la moindre suspicion que c'est une urgence santé, déjà déclencher un véhicule pompier. Et ensuite transmettre l'appel au médecin régulateur pour ce qu'ils appellent régulation médicale. Donc ça veut dire un deuxième interlocuteur qui est un médecin urgentiste et qui va faire une deuxième évaluation pour avoir un diagnostic plus précis et éventuellement donner des instructions de premier secours ou en attendant l'ambulance. Et soit l'ARM, soit le médecin régulateur peuvent aussi envoyer un véhicule du SAMU. Donc là, c'est une ambulance avec une équipe médicale, donc un médecin urgentiste, une infirmière urgentiste et un ambulancier. Donc ça peut être envoyé par l'ARM ou le médecin régulateur. Donc si c'est une urgence vitale, en fait, il y a les deux secours qui sont envoyés en même temps. En général, les pompiers arrivent d'abord et puis ensuite, tout de suite après, il y a l'équipe médicale. Donc voilà, donc pour une urgence grave, il y a les deux secours qui sont envoyés. Il arrive que les appelants payent le 18 à la place, donc les pompiers. Là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils parlent donc à un opérateur sapeur-pompier. Dès que cette personne se rend compte que c'est une urgence santé, il peut envoyer lui aussi un véhicule pompier. Mais ensuite, l'appel est rebasculé au SAMU. Donc ça veut dire que si un appelant a contacté le 18 et qu'en fait c'est par exemple un AVC ou une crise cardiaque ou des douleurs thoraciques, il va y avoir a priori trois interlocuteurs différents. L'opérateur pompier, ensuite l'ARM et ensuite le médecin régulateur pour régulation. Donc voilà, en fonction du trajet, en fonction du numéro composé et en fonction du type d'urgence, on peut avoir jusqu'à trois interlocuteurs différents, voire plus si par exemple il y a un premier appel avec ces trois interlocuteurs, et puis 10 minutes plus tard, l'appelant rappelle parce que la personne s'est agrafée, par exemple. Donc là, ça pourrait être un nouvel arme qui décroche le téléphone. Donc voilà, multiplication des interlocuteurs, c'est en fait le fonctionnement courant pour les appels d'urgence. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le dossier de régulation. Donc ça, c'est un exemple complètement fictif, mais visuellement, ça ressemble à ça. C'est donc le dossier électronique qui est partagé par les armes et les médecins régulateurs. Donc dès qu'ils sont en train de travailler sur un dossier ou qu'ils ont un appelant au téléphone, ils ont ça qui s'affiche à l'écran, et c'est là-dedans qu'ils vont saisir toutes les informations pour pouvoir prendre en charge la personne. Donc l'adresse, le numéro de téléphone, quel est le nom du patient, si ce n'est pas le patient qui est appelant pour lui-même, bah, qui est en train d'appeler, à quel numéro on peut le joindre. Et aussi, il y a un enregistrement des décisions qui ont été prises. Donc par exemple, dans ce cas fictif, on peut voir qu'à 19h33, il y a un véhicule pompier, un VSAV qui était envoyé. Et puis ensuite, un peu moins de 10 minutes plus tard, il y a une ambulance SMUR du SAMU qui a été envoyée. Donc voilà, on retrouve tout l'historique de ces cas de figure. Et donc les deux personnes, armes et médecin régulateur, peuvent intervenir en même temps sur la même fiche. Donc ça, c'est pour le fonctionnement en France. Et je vous montre aussi très rapidement comment ça se passe en Australie, puisque je vais aussi vous montrer des exemples en anglais qui viennent d'Australie. Alors eux, c'est un petit peu différent. Les régulateurs, ce ne sont pas des professionnels de santé là-bas. Ce sont des opérateurs qui sont spécifiquement formés à la régulation santé, mais qui ne sont pas des professionnels de santé au départ. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle un protocole systématique de régulation. En gros, c'est un algorithme de décision qui leur dit exactement, et qui est scripté, donc ça leur dit exactement qu'est-ce qu'il doit dire, à quel moment, en fonction des réponses ou de ce que produit l'appelant. Donc c'est assisté par ordinateur, donc ça, par exemple, ils ont ça en phase 2 sur leur écran, et ce que vous voyez en rouge, et ben, c'est la phrase que le régulateur doit dire à ce moment-là à l'appelant. Donc on est au moment de l'appel où le régulateur doit lire cette phrase. Alors forcément, avec l'expérience, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de lire, mais ils doivent dire la phrase « I'm sending the paramedics to help you now, stay on the line, and I'll tell you exactly what to do next ». Et donc ils sont censés le dire exactement comme ça. Et ensuite, en fonction des réponses ou de ce que l'appelant va dire, les décisions sont pré-choisies. Donc si on a un patient qui est dans telle ou telle situation, c'est décidé à l'avance qu'on est censé lui envoyer tel ou tel secours, lui donner telle ou telle instruction. Donc voilà, c'est entièrement scripté. Et les régulateurs sont évalués, pas sur à quel point ils ont bien repéré combien d'AVC ils ont repéré ou combien d'AVC ils sont laissés passer sous le radar. Ils sont évalués sur à quel point ils ont respecté le script. Donc voilà, c'est donc un fonctionnement vraiment très très différent entre la France et l'Australie sur ça. Voilà, donc ça c'est le contexte que je voulais poser avant de vous montrer des données. Donc, je vais juste en une diapo vous expliquer un petit peu comment je travaille pour collecter ces données et les analyser. Donc alors, comme tous les gens qui travaillent sur des données en interaction et surtout dans une institution, très souvent il y a d'abord une phase de terrain. Donc pour moi, ça veut dire en Australie et à Lyon, ça veut dire passer du temps dans le centre de régulation, dans le centre d'appel, observer comment les gens travaillent, comment ils s'organisent, quelles sont leurs contraintes, et puis poser des questions pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, comment leur logiciel fonctionne. C'est aussi des questions tout à fait techniques de comprendre qu'est-ce qu'ils ont sur leur bureau, il y a la radio, il y a trois écrans, il y a le téléphone, et ils se font des gestes aussi pour communiquer d'un bout à l'autre de la salle. Voilà. Parce qu'en fait, tout ça, c'est invisible dans les appels, mais en fait, c'est présent. Donc d'abord, une phase de terrain, et je ne l'ai pas dit, mais bon, la première phase, c'est d'abord obtenir l'accord d'un comité d'éthique et de la CNIL, etc., pour avoir le droit de rentrer et d'observer. Ensuite, c'est de la collecte de données audio, puisque ce sont des appels téléphoniques, donc ça veut dire aller chercher dans les archives du SAMU des appels d'urgence qui se sont déjà déroulés, puisque l'appel d'urgence, en fait, ça fait partie du dossier médical. Et donc, du coup, ils sont archivés réglementairement pendant 20 ans. Donc, si vous avez passé un appel d'urgence dans les 20 dernières années, ils sont archivés quelque part. Donc, ça veut dire aller retrouver les bandes audio des cas sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, moi je travaille surtout sur l'arrêt cardiaque, donc ça veut dire qu'il faut retrouver les enregistrements des cas où on sait que c'était des arrêts cardiaques telle année ou tel mois. Voilà. Ensuite, il y a une longue phase de transcription. Donc voilà une version light à quoi ça peut ressembler. Donc l'idée, c'est d'avoir une trace précise de ce qui se dit, mais aussi surtout la façon dont c'est dit et le timing dans lequel c'est dit. Les deux types de symboles que je vais vous expliquer pour que vous puissiez les lire dans les extraits suivants, C'est déjà les points que vous voyez entre parenthèses, c'est des pauses plus ou moins longues. Plus il y a de points et plus c'est une pause longue. Donc quand il y a juste un point, c'est vraiment très très court. Hein. C'est genre 200, 300 millisecondes, enfin, c'est vraiment minuscule. Donc les pauses et les silences. Et sinon, vous voyez ces crochets là. C'est pour signaler qu'il y a quelque chose qui est dit en même temps par deux personnes. Donc là, au moment où la personne du SAMU dit « d'accord », la plante est en train de dire « il est ». Et sur le reste de la phrase de la plante, « il a un pacemaker », la personne du SAMU n'est plus en train de parler. Donc voilà, donc ces crochets-là, c'est pour indiquer qu'il y a un chevauchement entre deux personnes, entre deux tours de parole. Donc ça, c'est la phase de transcription. Et je collecte aussi les dossiers de régulation. Donc comme l'exemple fictif que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'en fait, même si ce n'est pas directement de l'interaction, ça renseigne quand même sur le processus de pensée du point de vue du SAMU, des régulateurs. Donc notamment, on voit en termes de timing quels secours ont été envoyés à quel moment et comment a été catégorisé l'appel. Parce qu'il y a plein de choses que les régulateurs du SAMU ne vont pas forcément verbaliser auprès des appelants, mais en fait, d'avoir accès à ce dossier de régulation, on peut se rendre compte de qu'est-ce qu'ils ont perçu ou comment ils ont catégorisé une situation, par exemple. Donc voilà pour les données. Alors, donc, la première thématique que je voudrais aborder, c'est lexique et terminologie, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort le plus, c'est ce qui ressort en premier dans ce type de données, à quel point le choix des mots peut avoir un impact ou créer des difficultés dans ces appels. Donc déjà, la chose la plus facile à trouver, c'est marquante dès qu'on commence à écouter ce genre de données, c'est qu'il y a beaucoup de termes très spécialisés qui sont employés par les régulateurs du SAMU, mais aussi parfois par les appelants, qui ne sont pas forcément accessibles à n'importe quel appelant sans connaissance médicale préalable. Et ça, ça peut poser des problèmes assez vite dans les appels. Par exemple, ici, donc vous avez une arme qui dit « Vous l'avez un peu stimulé pour le réveiller, vous m'avez dit. » Et là, donc c'est ce mot-là qui m'intéresse, « stimulé », qui peut être un peu passe-partout pour des régulateurs du SAMU, qui peuvent ne plus se rendre compte qu'en fait c'est un terme qui a un sens médical précis, qui n'est pas forcément le sens de la vie courante, que pour eux, d'un point de vue médical, stimuler un patient, ça veut dire essayer de le faire réagir pour voir s'il est conscient, par exemple en le secouant ou en le pinçant pour voir s'il réagit à la douleur. Mais donc du coup, c'est un terme qui a en fait un sens relativement spécialisé. Et là, on peut voir que la plante, elle a un problème, enfin, en tout cas, il y a un indice de problème, il y a un petit silence, et il y a carrément une demande, il y a un signal que ça ne va pas, puisqu'elle demande comment. Donc du coup, la régulatrice, elle reformule en disant que vous avez essayé de le réveiller. Et là, on voit que ça fonctionne, la plante est capable de répondre. Et pourtant, au départ, sur la première ligne, là, vous voyez, il y avait déjà pour le réveiller. Donc en fait, il y avait quand même déjà un indice, mais ça n'a pas l'air d'avoir suffi. Donc c'est juste un tout petit mot qui n'est pas non plus très extrêmement difficile, mais parfois un petit détail comme ça, ça peut poser problème à certains appelants. Voilà, et vous voyez qu'ensuite l'arme repose la question, parce qu'en fait finalement elle n'est pas sûre que le oui-oui, est-ce que vraiment c'est une confirmation que la personne est consciente et qu'il y a eu une tentative de voir si elle se réveille. Donc voilà, parfois c'est juste un terme comme ça. Je vous montre un autre exemple, là c'est un appel avec un médecin régulateur, donc il y a déjà eu un contact avec l'arme et ensuite l'appel est transféré au médecin régulateur, et c'est au tout début de cet appel. Donc la plante redit pourquoi elle appelle, elle dit « mon mari ne réagit plus, il s'est étranglé ». Et là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le médecin dit « d'accord, est-ce que vous pouvez appuyer sur le thorax, s'il vous plaît ?» Alors, si le médecin dit « appuyer sur le thorax », ça veut dire qu'en fait, il est en train de donner des consignes pour faire un massage cardiaque. Hein. Donc, si vous avez fait votre formation au premier secours, c'est vraiment faire les compressions thoraciques quand on a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, dont son cœur s'est arrêté, c'est quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas, et voilà, il faut faire des compressions thoraciques. Donc, mais ça, c'est ce contexte institutionnel qui fait qu'on comprend ce que ça veut dire appuyer sur le thorax, mais ce n'est pas forcément évident pour n'importe quel appelant. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà parce que thorax, c'est un terme anatomique qui n'est finalement pas si courant en langue courante. Il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment où c'est le thorax, et c'est logique. Malheureusement, c'est un terme qu'on retrouve assez régulièrement dans les appels, parce que pour des intervenants, pour des professionnels de santé, c'est vraiment un terme banal. Ils peuvent oublier à quel point il n'est pas forcément partagé. Et là, en plus, c'est en combinaison avec « appuyer sur le thorax », c'est pas forcément clair. Si on n'a pas très bien compris qu'on est en train de nous faire faire un massage cardiaque, voire qu'on ne sait pas du tout le faire, voilà, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que ça veut dire « appuyer sur le thorax » et puis « appuyer comment » On pourrait avoir l'impression, sur la base de « appuyer », que c'est juste une pression continue, par exemple. Pas forcément, voilà, ça reste assez implicite. La deuxième chose, c'est que le médecin dit « il est au sol, là ». Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les appels, il est au sol. Sauf qu'en fait, au sol, c'est pas si courant que ça non plus dans la conversation courante, sauf dans un contexte peut-être sportif ou justement médical. Mais dans la langue vraiment courante, on a plutôt tendance à dire par terre qu'au sol. Donc au sol, c'est voilà, pas si courant. Et donc là, est-ce que c'est le thorax, est-ce que c'est au sol, est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pose problème à la plante, puisque de nouveau, il y a un petit silence, et pardon. Sauf que le médecin ne reformule pas, il redit « il est au sol, appuyé sur le thorax ». Bon, après, on entend dire « départ », c'est parce qu'en fait, il s'adresse à ses collègues pour dire qu'il faut envoyer l'ambulance. Donc c'est pas pour la plante qui dit « départ ». Voilà, donc pas vraiment de reformulation ou d'aide, alors qu'il y a un indice de problème. La plante dit ben, « j'appuie, mais ça fait rien ». Et nous, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'elle est vraiment en train de faire. « J'appuie, mais ça veut dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire précisément ?» Difficile de savoir. Et ensuite, vous voyez, vous avez ça, le médecin dit « appuyez sur le thorax, relâchez, appuyez, relâchez ». Et ça, si on n'a jamais fait un massage cardiaque de sa vie, c'est pas forcément évident non plus. Concrètement, ça veut dire quoi ?« Relâcher, appuyer, relâcher ». Bon, en fait, c'est les pressions que d'abord on appuie, ensuite on relâche, on rappuie et on relâche. Donc voilà ce geste-là. Mais voilà, donc là, il y a quelque chose de très implicite. En fait, si on n'a pas ces connaissances partagées, c'est extrêmement difficile de suivre ce genre de consignes. C'est en fait trop spécialisé. Voilà. Parfois, c'est plus insidieux que ça. C'est pas tellement les termes qui sont spécialisés, c'est une association de termes. Donc plutôt des problèmes de type colocation. C'est-à-dire des mots qui séparément sont tout à fait abordables ou font partie de la langue courante, mais mis ensemble, ça crée une colocation plutôt spécifique à la régulation médicale. Et là, c'est un exemple comme ça. Donc c'est à peu près au début de l'appel avec l'arme, la plante vient d'indiquer l'adresse, que c'est pour son mari, elle vient de donner ici son âge en disant qu'il a 72 ans. Et ensuite l'arme, elle demande « vous êtes en maison ?» Et c'est « vous êtes en maison » qui m'intéresse. Donc vous voyez qu'au départ, la plante elle a du mal, donc il y a un silence, comment ? L'arme répète exactement pareil « vous êtes en maison ?» Et ce qui m'intéresse c'est la réponse de la plante qui dit « non, on est à... mais chez nous, là, dans l'appartement. » Donc, a priori, ce que la plante a compris qu'on lui demandait, c'est « est-ce que vous êtes en maison de retraite ?» Parce qu'en plus, elle vient donner l'âge du mari, 72 ans. Donc, en tout cas, c'est pas vraiment ce que cherchait à obtenir l'arme, puisqu'on le voit juste après, l'arme, ce qu'elle voulait savoir, c'est « est-ce que c'est une maison ou un appartement ?» pour savoir si elle doit demander à quel étage. Parce que si c'est une situation dans un appartement, ça ne suffit pas d'avoir l'adresse. Il faut aussi indiquer l'étage aux pompiers ou au SAMU. Donc là, en fait, on a une question avec « vous êtes en maison » dont l'objectif ou l'intention est complètement obscure pour la plante. Déjà, elle ne sait pas pourquoi on lui pose la question de « vous êtes en maison ». Et surtout, le choix de cette simple préposition « en » devant « maison », eh bien, en fait, ça convoque un autre contexte que « dans une maison ». En langue courante, on dirait plutôt « dans une maison ». En, c'est plutôt pour des lieux de type institutionnel. On dit être en foyer, en prison, en EHPAD, mais on ne dit pas être en maison, ou alors c'est en maison de retraite. Voilà, mais malheureusement, c'est une colocation qui est très courante dans le centre d'appel du SAMU. Eux, c'est en maison ou en appartement. Donc voilà, des fois, c'est une simple association comme ça, qui par habitude des régulateurs, mais en fait, peuvent poser problème aux appelants. Et parfois, c'est aussi des questions qui sont vraiment entièrement implicites, donc c'est un peu du même registre, mais là, on ne peut même pas pointer un mot en particulier qui pose problème, c'est juste les intentions des régulateurs restent complètement obscures pour les appelants. Donc ça, c'est un exemple comme ça, où la médecin, elle demande « il est comment ?»« Il est comment ?» Alors expliquez-moi, décrivez-moi comment il est. Et dans une relative logique, la plante, elle répond que en fait, il ne va pas bien, puisqu'il est dans le coma, il est tout raide. Donc elle répond sur l'état du patient. Sauf qu'en fait, c'est pas ça ce qu'elle voulait, la médecin. En fait, elle voulait savoir il est dans quelle position, elle voulait savoir où il est et dans quelle position pour savoir si on peut faire un massage cardiaque ou des gestes de premier secours. Et vous voyez que c'est relativement laborieux, bon, c'est pas un extrait très long, mais il faut quand même un certain nombre de tentatives pour arriver à la conclusion que le patient, il est sur le lit, sur le côté. Vous voyez, c'est d'abord... donc, il est comment ? C'est pas l'information voulue. Ensuite, la médecin elle propose plusieurs options. Par terre, sur le canapé, ben non, en fait, il était sur le lit. Et ensuite, sur la position, elle dit, bon, alors, il est sur le dos, il est sur le ventre. Ben non, en fait, il était sur le côté. Voilà, hein, quelque chose qui est assez laborieux pour, en fait, juste demander, il est dans quelle position, il est où. Donc, voilà. Et d'ailleurs, sur les termes spécialisés, là, on retrouve Ah non, on n'a pas au sol, mais on a à plat dos. C'est beaucoup utilisé, on les appelle à plat dos et à plat ventre. C'est pas forcément évident pour tous les aplats. Ça peut être un peu perturbant de à plat dos, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que par exemple, tout simplement sur le dos, ça peut être beaucoup plus abordable. Voilà, vous êtes entrés. Ok, donc ça c'était vraiment l'entrée lexique, terminologie. C'est la plus évidente quand on commence à regarder, à écouter les données. Mais maintenant, je voudrais parler de grammaire, parce que parfois, c'est le choix des structures qu'on emploie qui peut avoir un impact sur ce qui se passe après. Alors, je vais commencer par des données en anglais, cette fois-ci. Et là, la question, c'est du point de vue du régulateur, comment on fait pour obtenir une bonne description de l'appelant. Donc, une bonne description, ça veut dire les informations les plus pertinentes et le plus court, le plus efficace possible, puisque le temps est vraiment extrêmement précieux dans ces appels d'urgence si la personne est dans un cas d'urgence vitale. Donc ça, c'est un exemple plutôt souhaitable où l'appelant propose un motif d'appel relativement compact qui se focalise sur vraiment les symptômes qui inquiètent. Donc vous voyez que ici, ça c'est la question qui est scriptée, donc c'est la question que le régulateur doit poser à ce moment-là, donc « Tell me exactly what's happened, please ». Et donc on a une réponse relativement compacte avec une patiente qui s'est effondrée par terre. Bon après, il n'y a pas que des informations hyper utiles, les douleurs au ventre, ce n'est pas forcément le plus important, mais voilà, ça reste relativement efficace. Mais on a aussi des cas comme ça, où là, après la même question, donc « Tell me exactly what happened », et là, on a quelque chose qui ressemble plus à un récit qui est extrêmement long, avec beaucoup de détails, et surtout beaucoup de détails complètement superflus. Donc là, à la même question, on a un appelant qui dit qu'elle s'accompagne, ça fait un moment qu'elle a Alzheimer, il l'a emmenée aux toilettes, ils étaient dans la salle de bain, et elle se lavait les mains, et elle se les séchait, et là, elle s'est tournée vers moi, et elle a dit « je me sens bizarre », et elle est tombée, bon, je l'ai un peu rattrapée, elle ne s'est pas cognée la tête, bon, voilà, c'est extrêmement long. Il y a des informations très importantes à l'intérieur, mais elles sont un peu cachées. Donc, par exemple, on voit que la patiente elle est inconsciente et qu'il y a une respiration problématique. Donc, c'est ça les informations importantes, mais c'est vraiment caché dans un empaquetage avec beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment un récit avec un début, enfin une situation initiale, un élément déclencheur, perturbateur, une conclusion. Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, en tout cas du point de vue du régulateur à ce moment-là de l'appel, parce que ça fait perdre du temps et que les informations cruciales elles sont difficiles à. Enfin, c'est difficile de faire le tri. Mais en fait, si on compare des appels où on a ça et des appels où on a cette version-là plus courte que je vous remets ici, et bien en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une oscillation statistiquement significative entre la question et le format de réponse. En fait, ce qu'on observe, c'est que la plupart du temps, quand on a une réponse courte et efficace comme ça, en fait, dans la question, c'était « what's happened ?». En fait, c'était un « present perfect ». Alors que dans les réponses beaucoup plus longues, type précis, en général, ce qu'on a dans la question, c'est en fait un autre temps, donc c'est du pretérit. Donc c'est là qu'on a une différence temporelle et aspectuelle dans la question qui occasionne une réponse différente de l'appelant. Et c'est assez logique d'un point de vue de grammaire anglaise, en fait, puisque le pretérit ici, what happened, c'est le temps du récit. Donc c'est pas une grosse surprise que les appelants répondent avec un récit. Alors que ici, le what's happened, donc c'est le present perfect, ça c'est le temps du présent, de ce qui est important là, maintenant. Et ce n'est pas non plus une grosse surprise que les appelants répondent avec les symptômes qui les préoccupent le plus à ce moment-là. Donc là, il y a un lien vraiment entre le temps et l'aspect de la question et la réponse de l'appelant. Donc, avec la version prétérite, le temps médian de réponse il est de 18 secondes, ce qui est relativement long dans un appel d'urgence. Et surtout, il y a beaucoup de détails superflus. Alors qu'avec la deuxième version, qui n'est pas la version officielle. Le script, en fait, c'est censé être « what happened ». Quand les régulateurs disent « what's happened », c'est en fait leur propre adaptation. C'est qu'en fait, eux ont senti, profondément, probablement à un niveau inconscient, que en fait, « what's happened », c'est quelque chose de plus naturel et utile dans cette situation-là. Et là, le temps médian de réponse, il passe à 9 secondes. Et la réponse des appelants se focalise beaucoup plus sur les symptômes au moment présent. Donc beaucoup plus utile. Voilà, et donc si les régulateurs choisissent « what's happened », il y a 4 fois plus de chances que l'appelant réponde avec un récit court, efficace, focalisé sur les symptômes, et surtout l'ambulance, elle envoyait 8 secondes plus tôt. Alors 8 secondes, ça paraît un tout petit gain, sauf que si c'est une urgence vitale, 8 secondes, en fait, ça peut être assez important. Là, c'était que des cas d'arrêt cardiaque, et donc c'est une situation où une minute sans qu'il se passe rien, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc 8 secondes, ça peut être important, surtout si on peut faire d'autres petits gains au fur et à mesure à d'autres endroits de l'appel. Donc voilà, ça c'était le premier exemple vraiment grammaire, à quel point la grammaire peut avoir un impact sur ce qui se passe dans ces interactions. Le deuxième exemple, ça va être sur des données en français. Donc là, la question, c'est comment arrive à faire agir à distance l'appelant. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est quand on fait une requête où l'appelant doit pas seulement répondre avec des paroles, mais surtout faire une action. Donc ce type de requête, ça peut être demander à l'appelant de mettre son téléphone sur haut-parleur, par exemple, pour qu'il ait les mains libres. Vérifier si le patient est conscient en lui prenant la main, par exemple, et en lui demandant s'il répond. Ça peut être positionner le patient, donc, par exemple en position latérale de sécurité ou sur le dos pour faire un massage cardiaque. Et donc tout ça, ça projette une réponse vraiment purement actionnelle, pas juste répondre quelque chose. Donc la question c'est, est-ce que quand on essaie de faire ça à l'appelant, est-ce que choisir telle ou telle structure grammaticale, ça va avoir un impact sur est-ce que l'action est faite? Et si oui, est-ce qu'elle est faite tout de suite ou pas tout de suite? Alors, comme en France avec le SAMU, il n'y a pas un arbre décisionnel scripté, forcément il y a énormément de variations dans la façon dont les régulateurs vont formuler ces requêtes. Mais les structures les plus employées parmi d'autres variations, on sait déjà l'impératif, beaucoup plus que dans la conversation ordinaire, donc beaucoup d'impératifs du type « mettez le haut-parleur ». Il y a aussi beaucoup de déclaratifs au présent, donc « vous mettez le haut-parleur ». Et parfois des déclaratifs au futur proche, donc vous allez mettre le haut-parleur, et énormément de structures impersonnelles assez variées, du type il faut mettre le haut-parleur, il faudrait mettre le haut-parleur, là ce qu'il faudrait c'est mettre le haut-parleur, ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai pas de chiffres encore à vous montrer parce que c'est une étude en cours, mais il y a quand même des indices assez clairs que si on veut faire agir la personne tout de suite, immédiatement après avoir dit son instruction, a priori, ces trois structures-là, impératif, déclaratif présent et déclaratif futur, ont beaucoup plus de chances d'être suivies d'une action immédiate. Alors que les structures impersonnelles, soit l'appelant va le faire, mais pas tout de suite. Donc si on dit par exemple « il faut mettre le haut-parleur », il y a beaucoup d'appelants qui ont bien compris ce qu'on leur demandait, mais en fait ils attendent la suite et ils le font après. Donc il peut y avoir un délai si en fait on voulait les faire agir là maintenant, voire ils ne le font pas du tout. Ça arrive aussi après ces structures impersonnelles. Donc, a priori, voilà, un ensemble de structures qui ne sont pas forcément souhaitables dans ce contexte précis. Bon, évidemment, si on est en train d'expliquer à l'appelant ce qu'il va falloir faire dans quelques minutes ou dans quelques secondes, on peut tout à fait utiliser des structures impersonnelles, mais si c'est vraiment pour agir là, maintenant, tout de suite, a priori, pas à choisir. Voilà, donc ça, c'est le deuxième exemple sur cette question de grammaire. Et enfin, la dernière thématique que je voudrais aborder, c'est donc à un niveau plus général des projets interactionnels qui ne sont pas forcément alignés entre les projets des appelants et les projets des régulateurs. Donc qu'est-ce qu'on cherche à accomplir dans cette interaction? Donc le premier exemple, c'est sur de l'anglais, c'est les préemptions. Et pour ça, je commence par vous montrer un exemple connu d'une conversation téléphonique tout à fait ordinaire en anglais américain pour vous montrer que... Ça, vous en avez une connaissance intuitive, mais très souvent, quand on téléphone à quelqu'un, rapidement, dans le début de l'appel, on va dire pourquoi on appelle. Donc, c'est la raison de l'appel, le motif d'appel. Donc là, vous en avez un exemple ici. Vous voyez qu'on a les salutations, et très vite, on a Yvonne qui dit « I wanted to apologize to you for Sunday ». Donc, c'est la raison qui fait qu'elle appelle. C'est discuté, en général, relativement tôt dans l'appel. Ça ne veut pas dire qu'elles vont parler que de ça. Mais voilà, c'est un moment clé qu'on peut trouver dans les conversations téléphoniques ordinaires. Donc la raison de l'appel ou « reason for the call » en anglais. Dans les appels d'urgence aussi, il y a « reason for the call ». Mais là, ce qui m'intéresse, c'est quand cette raison de l'appel, elle est donnée trop tôt du point de vue de l'institution. Donc c'est des appelants qui vont donner leur raison d'appel avant qu'on leur demande. Typiquement, quand on est encore en train de leur demander l'adresse ou le numéro de téléphone, et soit au lieu de répondre, soit directement à la suite, l'appelant dit pourquoi il appelle. Donc c'est une préemption, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment le tout début de l'appel. Vous avez le régulateur qui dit « Ambulance, what's the address of the emergency ?» Donc c'est vraiment le premier tour du régulateur. Et vous voyez que l'appelant ne répond pas à la question sur l'adresse. À la place, elle donne sa raison d'appel immédiatement. Donc « My boyfriend is very nervous, and he's foaming in the mouth, I don't know what's the matter with him. » Donc c'est la raison qui fait qu'elle est en train de contacter le numéro d'urgence. Ça, c'est un phénomène assez courant dans ces données australiennes. C'est quand même 33% des appels, donc c'est vraiment, ça fait partie de la réalité des appels d'urgence. Et c'est typiquement traité par les régulateurs comme une interruption. Comme ici, parce que vous voyez que la régulatrice, elle répète sa question sur l'adresse. Donc là, la raison par l'appel, elle n'est pas accueillie par la régulatrice. En tout cas, il n'y a pas de trace que c'est accueilli dans l'interaction. Donc voilà, la question, c'est quel impact ce genre de choses a sur la suite de l'appel ? En termes de quelles informations sont collectées ou pas ? Et sur le reste de la trajectoire de l'appel, si ça a été dit à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ensuite ? En fait, ces préemptions de la raison de l'appel, elles exposent les régulateurs et les appelants à deux risques importants pour le reste de l'appel. Le premier risque, c'est qu'il y ait des détails superflus qui soient dits plus tard. Parce qu'à partir du moment où un appelant a déjà donné une raison pour son appel, il ne va pas répéter exactement la même chose, puisque ça a déjà été dit, donc c'est vraiment « on the record ». Donc c'est un exemple là où vous voyez que la préemption elle est ici, donc après « Ambulance, what's the address of the emergency ?» La personne dit qu'elle appelle pour son mari qui s'est écroulé et elle ne peut pas, et ensuite elle est interrompue. Donc on passe à l'adresse. Donc ça c'est le moment officiel où elle est censée donner sa raison pour l'appel, quand on lui demande « tell me exactly what happened ?» Et là vous pouvez voir que la réponse elle n'est pas tout à fait pareille, c'est pas exactement la même chose. Donc elle ne redit pas que son mari est tombé par terre, elle se focalise plutôt sur le fait qu'il est asthmatique et qu'il a des problèmes digestifs. Donc ce qui est complètement hors sujet, c'est une personne qui est en arrêt cardiaque, donc son asthme, c'est vraiment hors sujet à ce moment-là. Donc ça veut dire, voilà, le premier risque, c'est ça, c'est au moment où on va poser officiellement la question à l'appelant, l'appelant, il pense qu'on lui demande des détails en plus. Donc il va extrapoler, il va fournir des informations supplémentaires qui peuvent être superflues. Le deuxième risque, c'est de perdre des informations cruciales. Parce que si l'appelant ne répète pas exactement de la même façon sa raison d'appeler, il y a une information qui peut être perdue. Ça, c'est un exemple comme ça. La préemption, elle est ici, elle est très courte, en fait. Donc, au moment où on lui demande l'adresse, l'appelante donne son adresse, donc elle répond vraiment à la question, mais immédiatement, elle dit « and she can't breathe ». Et donc, c'est pour ça qu'elle appelle. Mais au moment officiel où on demande la raison pour l'appel, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle ne dit pas exactement la même chose. La plante, cette fois-ci, elle se focalise sur le fait que sa mère est inconsciente par terre et qu'elle fait des drôles de bruits et qu'elle pense que peut-être ce sont des convulsions. Donc là, il y a une information capitale sur le fait que la patiente ne respire pas. C'est l'information la plus importante de tout l'appel. Mais en fait, elle est perdue. Parce qu'elle a été dite au mauvais moment et en plus, elle est dite en chevauchement au moment où la régulatrice répète l'adresse pour confirmer qu'elle a la bonne adresse. Donc là, on a une information qui est vraiment capitale, qui est perdue, qui n'est pas répétée, et qui va empêcher de détecter l'arrêt cardiaque et d'envoyer les bons secours pour cette patiente. Donc ça, c'est le deuxième risque quand il y a une préemption, c'est aussi de rater une information qui ne va pas être redite par l'appelant. Et en fait, il y a une stratégie interactionnelle qui marche bien pour gérer ces moments de préemption. C'est une stratégie qu'on trouve rarement dans les données, parce qu'officiellement, les régulateurs n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont censés poser la question « tell me exactly what's happened ». Mais ça arrive que les régulateurs s'adaptent et au lieu de répéter « tell me exactly what's happened » après une préemption, ils font ce genre de choses. Donc ça, c'est la préemption de la plante qui dit juste après son adresse « my husband's just collapsed on the floor ». Et ensuite, la régulatrice, une fois qu'elle a l'adresse et le numéro de téléphone, au lieu de dire « tell me exactly what's happened », en fait, elle recycle, elle reformule ce que la plante lui a dit. Et donc, elle dit « so your husband's collapsed », c'est juste une demande de confirmation. Et la plante a juste à confirmer en disant « yes ». Donc ça permet de vérifier que l'information a bien été captée, et ensuite on peut passer directement à la suite. Mais donc voilà, ça c'est une stratégie qui est rare, mais qui est assez efficace pour intégrer les préemptions dans la gestion de l'appel et pas s'exposer à ces trajectoires où on rate des informations, où on a des détails superflus. Voilà. Et le dernier exemple que je vous donne, c'est ce fois-ci, c'est on repasse au français, c'est les reformulations. Donc c'est le moment où le médecin régulateur reprend un appel qui a été transmis par un arme. Et je vous montre tout de suite l'exemple. Donc c'est le tout début de cet appel. Donc vous avez le médecin qui dit « allô ». Et ensuite, directement, dit « oui, bonjour », donne son nom, « médecin à la régulation du SAMU ». Vous êtes le fils de monsieur machin qui a 70 ans et qui aurait fait un malaise dans ses toilettes. C'est ça. Donc c'est ça ce que j'appelle une reformulation, c'est-à-dire que le médecin propose une espèce de résumé ou de synthèse de ce qui fait que l'appelant est en train d'appeler. Donc c'est un résumé qui se base sur les informations que l'arme lui a transmises, à la fois oralement et dans le dossier de régulation. Mais donc, ce n'est pas des informations auxquelles le médecin lui accède directement par la bouche de l'appelant. C'est une reformulation de reformulation, en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est une pratique qui permet au médecin de signaler que même s'il y a un changement d'interlocuteur, l'appelant n'a pas besoin de repartir de zéro, en fait. Il y a une continuité entre son interaction avec l'arme et maintenant son interaction avec le médecin. Donc ça permet de signaler la continuité et d'obtenir confirmation déjà qu'on a bien le bon patient au téléphone et qu'on peut passer à la suite. Mais c'est un moment qui est en fait extrêmement accidentogène et je vais vous montrer pourquoi. Déjà, je vous montre ce qui se passe quand il n'y a pas de reformulation, parce que c'est intéressant de voir à quel point elles sont utiles quand justement le médecin ne fait pas ce travail de reformulation en tout début d'appel. On peut trouver ce genre de choses. Donc là, vous voyez qu'au tout début de l'appel avec le médecin, donc, le médecin dit « Oui, bonjour madame, je suis le médecin du SAMU », avec une intonation descendante. Donc l'appelant considère que ça peut être à elle de prendre la parole, que ça peut être à son tour. Et donc elle se lance en fait, dans sa raison pour appeler. Et vous voyez que c'est relativement long. Donc elle dit que le monsieur écoule du nez, est un peu stressé, c'est la première fois, il y a un monsieur qui est par terre, on a mis information PN, PLN, je ne sais plus quoi, donc elle veut dire position latérale de sécurité. Elle redit qu'il a le nez qui coule. Ensuite, on entend une témoin qui est aussi avec elle, présente sur place, qui dit, dans le fond, l'a trouvé allongé, et la plante continue, il vit dans la rue, en fait, quoi, dans une tente. Donc là, on a une raison pour l'appel qui est assez longue et qui a beaucoup de détails complètement superflus. Donc, scoop, c'est encore un arrêt cardiaque, donc c'est une personne qui ne respire pas, qui est inconsciente. Donc le fait qu'il coule du nez, qu'il saigne du nez, c'est vraiment pas du tout la priorité. Mais c'est peut-être assez impressionnant, parce que, voilà, peut-être que la plante, c'est ce qui l'impressionne le plus s'il y a beaucoup de sang. Mais donc voilà, ce qui se passe quand on n'a pas de reformulation, qu'on a simplement une présentation du médecin, ça l'expose à ce que l'appelant choisit en fait les informations qu'il ou elle va présenter. Donc ça veut dire qu'on est tributaire, en tout cas le régulateur est tributaire du choix qui va être fait par l'appelant de présenter telle ou telle information en priorité. Et l'autre risque, c'est qu'il y a une possible confiscation de la parole, puisque ce n'est pas forcément évident pour le médecin de savoir exactement quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre la parole si l'appelant se lance dans un récit assez long. Donc si on ne veut pas interrompre l'appelant, on ne sait pas exactement, si on laisse ouvert comme ça, à quel moment on va pouvoir reprendre la main sur l'interaction. Donc voilà, ça c'est le risque sans reformulation. Mais ce moment de reformulation, il est particulièrement difficile. En fait, c'est difficile de faire une bonne reformulation. En fait, c'est un endroit où les appelants résistent assez souvent à la façon dont on résume leur propre situation. Forcément, parfois, ils résistent à la façon dont on... les mots qui vont être choisis pour résumer la situation. Donc, par exemple, ici, la reformulation, elle est là. Donc, le médecin dit « Oui, je suis le médecin du SAMU, donc il est diabétique, votre papa. » Et c'est le moment, tout au début, où l'appel dégénère complètement. Donc, vous voyez, les majuscules, c'est pour dire que l'appelant crie. Il répond, écoutez, c'est pas mon papa, c'est un ami, là ça va très très mal, alors vous arrivez, je vous en supplie, et ça continue. Et quelques secondes plus tard, en fait, l'appel va être arrêté prématurément, enfin ça raccroche et les secours sont pas envoyés. Donc, il y a probablement un ensemble de raisons qui font qu'il y a un conflit qui se développe à ce moment-là. Mais il est probable que la reformulation y a un petit peu participé. Vous savez que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, vous voyez que dans ce « il est diabétique, votre papa », en fait, l'appelant, il a un problème avec le « votre papa », puisqu'en fait, c'est pas le fils du patient, c'est un ami. Donc ce lien social entre appelant et patient, c'est une erreur factuelle. Et donc on voit que ça pose un problème pour l'appelant. Et c'est quelque chose qu'on trouve, là c'est un exemple vraiment extrême, mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez souvent. Les appelants sont à l'affût des erreurs factuelles, puisque pour eux, c'est un signe qu'ils n'ont pas été entendus, qu'ils n'ont pas été écoutés, que l'information a été mal transmise, voilà. Donc surtout sur ces liens sociaux entre qui est l'appelant pour le patient, si ce n'est pas la même personne, c'est souvent un endroit où il y a beaucoup de résistances et de conflits qui peuvent se développer. Et pour la petite histoire, le médecin, il ne pouvait vraiment pas savoir, parce qu'en fait, il y a eu un changement d'interlocuteur. L'arme ne parlait pas à cet appelant-là, il parlait vraiment au fils. Donc vraiment, le médecin, il ne pouvait pas savoir qu'entre-temps, c'était maintenant un ami et plus le fils. Mais voilà, ça montre à quel point ces reformulations, si l'appelant n'est pas d'accord avec, ça peut dégénérer assez vite. Voilà, donc, en conclusion, je vais peut-être vous donner quelques mots pour nous qui sommes tous des membres ordinaires de la société. Ça peut nous arriver, ça vous est peut-être déjà arrivé de devoir passer un appel d'urgence. Et peut-être que vous avez des expériences plus ou moins heureuses, parce que c'est forcément des conversations difficile, c'est forcément une situation où il y a quelque chose qui nous inquiète, soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre. Donc c'est dès le départ une conversation qui peut être anxiogène. Donc sur la base de ces données, ce qu'on peut dire si on doit passer un appel d'urgence, bah déjà, une première chose, c'est qu'il faut être prêt à donner une adresse précise. Et il faut savoir que du point de vue des régulateurs du SAMU, mais aussi des pompiers, une adresse précise, ça veut dire avec une rue. Donc si vous leur dites par exemple, je suis devant le McDo à Bellecour, mais en fait, ils ne peuvent pas rentrer ça dans le système. Donc même si c'est hyper précis et que vous, avec votre téléphone, vous pouvez googler et vous le trouvez tout de suite, bah, d'un point de vue institutionnel, ça ne correspond pas à ce qu'ils peuvent saisir. Donc ça ralentit la prise en charge. Donc voilà, il vous faut une adresse avec une rue, un numéro de rue. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir conscience que ça fait partie du fonctionnement normal d'avoir plusieurs interlocuteurs au téléphone. Donc il faut s'attendre à ce qu'on nous transmette à une autre personne, qu'on soit mis en attente. C'est pas qu'on n'est pas pris au sérieux, ça fait vraiment partie du fonctionnement normal. Donc avoir plusieurs interlocuteurs à la suite et des informations qui sont partagées. Mais forcément, vous ne pouvez pas savoir quelles informations exactement ont été partagées. La deuxième chose, c'est que, bon, en général, les appelants s'attendent à devoir répondre à des questions, mais vous attendez pas forcément qu'il va y avoir beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire qu'on n'évalue pas votre demande comme légitime. C'est juste, ça fait partie du travail des régulateurs de poser un ensemble de questions pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une remise en cause de la légitimité de votre demande. Mais il faut aussi s'attendre à ce qu'ils vous fassent agir. Ils ne vont pas juste vous demander de répondre à des questions, ils peuvent aussi vous faire faire des actions, par exemple rassembler des ordonnances, ou faire des gestes de premier secours, ou envoyer quelqu'un dans la rue pour attendre les pompiers, voilà, ce genre de choses. Donc être prêt à agir aussi. L'autre chose, c'est que ce qui est le plus important pour vous à dire et dans la situation, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important pour eux de savoir. Bon, alors ça, forcément, vous fonctionnez qu'avec une partie des informations, vous ne pouvez pas forcément savoir. Mais par exemple, vous pouvez être très impressionné par une quantité de sang importante, mais vous pouvez avoir l'impression que les régulateurs n'y prêtent pas attention, et vous l'avez déjà dit 3 fois qu'il y a beaucoup de sang. Mais peut-être qu'en fait, eux, ils s'intéressent à quelque chose qui leur semble plus important dans cette situation-là. Donc, en fait, pour résumer, les 3 informations les plus importantes que vous allez devoir donner et qu'il va falloir déterminer, qui sont difficiles à déterminer, bon, c'est l'adresse. Et est-ce que la personne est consciente? Est-ce que la personne, elle respire? C'est les 3 choses qu'il faut être prêt à y répondre. Vous allez pouvoir être guidé pour savoir comment déterminer si une personne est consciente et respire, ce qui est en fait très, très difficile si on n'est pas professionnel de santé. Mais voilà, c'est les 3 informations qu'il faut arriver à faire passer. Et enfin, la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut aussi se connaître et faire en fonction de ses propres difficultés en interaction. Et je pense notamment aux personnes qui ont tendance à ne pas vouloir déranger ou à minimiser leur inquiétude ou leur douleur. Ou voilà. C'est forcément un piège majeur dans ce type d'interaction. Donc il faut essayer de rester le plus objectif possible. Et voilà, dites vraiment ce qui vous inquiète. Et c'est à eux d'évaluer à quel point... Voilà, de catégoriser la situation et de la prioriser, mais voilà, ne minimisez pas la chose. Et voilà, c'est pas une question d'avoir peur de déranger. Voilà.